J'ai fait ma thèse sur l'espace Manche et ça fait maintenant plus de 18 ans que je travaille sur cet espace que je commence à connaître un petit peu. J'ai travaillé pas du tout sur le thème des transports, mais sur le thème des migrations de populations âgées, ce qu'on appelle les retraités migrants et qui viennent au moment de leur retraite s'installer sur les rives de la Manche. Et donc j'ai étudié toutes les conséquences économiques et sociales de ces migrations de populations. Et puis, en fait, depuis le début de mes études, j'ai travaillé sur l'Atlas, qui, vous le verrez, je referai un petit historique très rapide, a commencé à se construire, à évoluer petit à petit. Et donc, depuis 1997, je travaille sur cet Atlas électronique et sur cet espace transfrontalier maritime. Et aujourd'hui, j'ai en charge la gestion de l'Atlas, de son contenu, de ses évolutions. J'assure également le lien avec d'autres collègues, puisque c'est un projet pluridisciplinaire. Et j'ai en charge également deux autres atlas, un sur l'espace Caraïbe et un autre avec donc sur l'espace Caraïbe avec des collègues qui sont enseignants du secondaire, basés en Martinique et en République dominicaine. Et puis un troisième atlas pour lequel je travaille uniquement avec Pascal sur les aspects politiques de la France de l'Ouest. Voilà. Alors l'Atlas Transmanche électronique tel qu'il existe aujourd'hui, c'est le fruit d'une collaboration entre SHS et STIC, Sciences des Ingénieurs, hein, donc informaticiens. Il est né, la première version 0, qui était une version papier, est née en 1994, donc il a 20 ans aujourd'hui, hein, enfin cette année. Et puis en 1997, en collaboration avec des informaticiens du grec, on a décidé d'en créer une version électronique. Alors, il a été créé, en fait, à l'initiative de deux géographes, Pascal Bulléon et Jean-Louis Schomer-Smith, qui étaient mes deux directeurs de thèse, qui se sont rencontrés dans la gare de Portsmouth, pour la petite histoire, qui ont sympathisé. C'est le fruit d'une amitié de plus de 20 ans aujourd'hui. Et nous travaillons encore ensemble. Et puis, à ces deux personnes se sont joints des informaticiens, dont un géographe qui est devenu informaticien, ça arrive, qui était à l'université de Caen pendant quelques années, qui s'appelait Mauro Gaillot, qui aujourd'hui est à l'université de Pau, et M. Jacques Madeleine, qui est maintenant à la retraite depuis cette année. Et puis à tous ces quatre personnes, ces quatre piliers, se sont joints toute une petite armée de doctorants, dont j'ai fait partie. Et nous avons travaillé, soit en informatique, soit en géographie, à développer cet atlas. Voilà. Pour la petite histoire, le contexte, etc. Alors, l'atlas tel que vous allez le voir aujourd'hui, c'est un outil qui a bénéficié de financements européens. Il a fait l'objet de deux programmes Interreg. Un premier programme EMDI de 2004 à 2008 et un second programme de 2009 à 2013, successifs. Hein. Et vous verrez que on a beaucoup bénéficié de ce programme pour développer l'outil en lui-même, son contenu, ses fonctionnalités, etc. Pour nous, l'espace Manche, il est avant tout composé de terres émergées et d'étendues marines. Sa forme de couloir de porte d'entrée lorsque l'on vient de l'Atlantique se resserre peu à peu au niveau du détroit. Et ça lui confère une géographie très particulière. Ce passage étroit, ce que l'on appelle également ce canal entre une île et un continent, c'est une porte d'entrée vers la mer du Nord et la Baltique, avec une géographie physique particulière, puisque à l'entrée dans la Manche, on est à plus de 100 mètres de fond, hein, de profondeur, et lorsque l'on franchit le détroit, on ne dépasse que rarement les 30 mètres, hein, voire moins, puisque le détroit est parsemé de bancs de sable qui sont mouvants, avec donc des difficultés évidemment de navigation pour les bateaux. Alors, on est également dans une mer qui est soumise à des vents très violents, des marnages, c'est-à-dire des marées, des marnages parmi les plus importants au monde. Deux volets de marées se succèdent. Hein. Lorsque la marée est haute dans le Finistère, à Roscoff, elle est basse dans le Détroit et inversement. Donc c'est une configuration géographique très particulière qui en font aujourd'hui pourtant une mer très dangereuse, bien connue par les marins. Mais c'est aujourd'hui le premier couloir de circulation maritime au monde. Ex aequo parfois avec le détroit de Malacca. Donc ce n'est pas un espace anodin d'un point de vue commerce particulièrement et transport, trafic maritime. Cet espace Manche pour nous géographes, eh bien on le voit toujours dans l'autre sens. Et nous on s'est amusé à bousculer un petit peu le regard de nos lecteurs Et on a retourné la carte. Alors non, elle n'est pas fausse, elle est vraiment dans le bon sens. Simplement, nous nous sommes mis à la place de nos voisins anglais et nous nous sommes dit, mais que voit-il ? Que voit-il lorsqu'il regarde vers le continent ? Cet espace manche qui est ponctué de tout un ensemble de petites sociétés littorales aux identités parfois très fortes et qui ont tissé au fur et à mesure des siècles et des années une sorte de trame. Ce sont des liaisons aériennes par exemple ou des liaisons ferries, mais tout un ensemble de trames, d'histoires communes qui fait qu'aujourd'hui on peut vraiment, nous géographes, parler d'espace maritime commun. Alors cette petite mer, parce qu'il n'en reste pas moins que la mer de la Manche est une toute petite mer à l'échelle du globe, au centre finalement et à la croisée des chemins de toutes les grandes routes maritimes. Cette petite mer, c'est un véritable cordon ombilical, c'est une porte d'entrée de l'Europe, vers l'Europe, pour le monde entier. Tout le monde se donne rendez-vous en Manche. C'est la vision que nous, géographes, nous avons de cet espace. Alors, ce premier couloir de circulation maritime au monde, c'est une réalité puisque depuis le début de mon propos et les quelques minutes qui viennent de s'écouler, eh bien, trois bateaux se sont d'ores et déjà identifiés à leur entrée ou à leur sortie de l'espace Manche. Trois bateaux se sont déclarés, ont déclaré trois bateaux de plus de 300 tonnes, puisque c'est ceux-là qui sont identifiés. Trois bateaux se sont déclarés comme entrant ou sortant de l'espace Manche. Alors, ils se sont déclarés où ? Eh bien, ils se sont déclarés au Cross Corsen, ici, ou bien, je vous expliquerai par la suite, au Cross Jobourg ou au Cross Grinet. Ils rentrent et sortent de cette petite mer franco-britannique et ce trafic est ininterrompu. Chaque jour, près de 430 navires entrent ou sortent de l'espace Manche. Alors, ce sont les derniers comptages, ce sont les données que je vous livre là sont celles de 2013, donc les derniers comptages qui ont été effectués. En 2013, par exemple, on a eu 36 000 navires qui se sont déclarés ici, au Cross Grinet, côté français, et on a l'équivalent côté britannique à Douvres. On a un peu plus de 59 000 navires qui se sont déclarés au Cross Jobourg, ici. Exactement. Et un peu plus de 43 600 au Cross Corsen, ici à leur entrée dans la Manche, au large de Brest. Ça fait combien à peu près par jour ? Eh bien, ça fait environ entre 200 navires au Cross Grinet, 162 par jour au Cross Jobourg et 119 au Cross Corsen. Vous voyez ? Non, 119 navires par jour, qui se déclarent. Mmh. Ce sont des gros navires, 300 TGB, tonnes jauge brute. Donc ce sont les plus gros navires qui se déclarent. Ça veut dire qu'il n'y a pas que ça. Et non, loin de là, en fait. De même, un camion traverse toutes les 5 minutes la Manche. Donc vous voyez, un navire toutes les 3 minutes et un camion toutes les 5 minutes dans le sens nord-sud ou sud-nord. Donc c'est vraiment une zone de trafic intense et le fret qui est transporté évidemment dans cet espace, il est à la mesure du nombre de bateaux qui y transitent. En 2010, on avait plus de 300 millions de tonnes de fret qui ont transité dans l'espace Manche. 300 millions de tonnes, 32 millions de passagers. 33 millions, pardon, de passagers. 333 millions de tonnes et 33 millions de passagers qui ont été transportés sur cet espace. Alors les 33 millions de passagers, eux, ils empruntent évidemment des compagnies de ferry, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors ce transport fret, en fait, il se concentre dans des zones particulières de l'espace Manche. Et particulièrement, le premier port de l'espace Manche, c'est le port du Havre. Aucune surprise de ce côté-là, côté français et côté anglais. C'est Southampton. Ces deux ports se font face. Ils assurent à eux deux 33% du trafic transmanche. Donc c'est quand même un gros volume. Un tiers du trafic transite par l'un ou l'autre de ces ports. Alors, évidemment, les disparités en termes de tonnage transporté sont importantes parce que tous les ports de l'espace manche n'ont pas la même taille, déjà, n'ont pas les mêmes infrastructures et ne sont pas dédiés au même type de transport. On a des ports qui sont plutôt des ports de transport passager, d'autres qui sont plutôt des ports de pêche, d'autres sont enfin des ports de commerce, parfois les trois, parfois deux activités seulement. C'est ce que représente cette carte. Alors, c'est vrai qu'on est loin, hein, mais les petits cercles de couleurs, en fait, identifient le type d'activité qui domine. Vous voyez que les plus gros cercles, c'est-à-dire Cherbourg, Southampton, Dieppe, sont ceux qui représentent en fait des ports qui ont toutes les activités du port de plaisance au port de commerce, en passant par le port de pêche et le port ferry. Alors qu'est-ce qu'on transporte dans cet espace Manche ? Eh bien on transporte avant tout du vrac liquide. Alors quand on parle de vrac liquide, en fait on parle essentiellement d'hydrocarbures. Donc transport de fuel, transport de pétrole, transport de gaz également. Et puis également du vrac liquide qui peut être du bitume par exemple, qui peut être d'autres des produits alimentaires essentiellement. À ce vrac qui est transporté de façon liquide, on a également du vrac solide. Donc ce sont des matériaux. Par exemple, le port de Caen reçoit énormément de ferraille, de bois. Ça peut être également du gravier, de la roche, des enrochements. Et puis des céréales. Des céréales, puisque dans l'espace Manche, on a le premier port céréalier français, Rouen. Donc on a tout le trafic de céréales qui rentre par cette voie maritime. À ce transport de vrac liquide et de vrac solide, eh bien, il faut ajouter les containers. Et les containers, c'est aujourd'hui une énorme part du trafic maritime transmanche et mondial en général. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. 44,3 millions de tonnes en 2010 ont transité dans l'espace Manche par container. Alors là, on transporte de tout. Ça va des biscuits au vélo, en passant par les écrans, en passant par des tongs. Enfin, vous verrez, j'ai des exemples assez cocasses, justement, de transports qui ne se sont pas forcément bien déroulés. Alors, là, on est dans le trafic entrant ou sortant, c'est-à-dire le trafic ouest-est. Maintenant, cet espace Manche, il est animé également d'un trafic nord-sud. À l'orthogonale de ce trafic commercial, il y a un autre type de trafic commercial également, mais qui concerne essentiellement du trafic passager. Et là, ce sont les ferries qui entrent en action. Dans l'espace Manche, on a, je vous ai dit tout à l'heure, 33 millions de passagers qui ont été transportés. Ça représente environ par semaine 91 000 personnes, 250 personnes par jour à peu près, qui traversent la Manche, voilà, dans un sens ou dans l'autre. 70% de ce trafic se fait au niveau du détroit, et pas par le tunnel, hein. Là, je vous parle uniquement du transport ferry. Donc, se fait par le détroit, 70% par le détroit seulement. Le reste alterne sur les différentes lignes que vous voyez représentées sur la carte en petits pointillés, toutes les liaisons qui apparaissent ici. J'ai perdu ma flèche, voilà. Toutes les liaisons ici qui sont les liaisons régulières. Au total, tous les jours, on a en moyenne 120 rotations de ferry sur la totalité de l'espace Manche. On est en période hivernale. En période estivale, il y en a un petit peu plus puisqu'on a des ferries rapides qui se joignent aux ferries classiques. Alors, il y a énormément de concurrence sur le détroit et sur l'espace Manche en général entre les compagnies de ferries. Depuis que je suis ce trafic, c'est-à-dire depuis 1997, j'ai assisté à l'apparition de certaines compagnies, disparition d'autres compagnies ferries. Et le paysage est très fluctuant. Je les suis deux fois par an, en été et en hiver, et tous les six mois environ, une compagnie apparaît, une autre disparaît. La compagnie qui est vraiment la compagnie, je vais dire, originelle de ce trafic maritime dans l'espace Manche, c'est la compagnie Brittany Ferry, dont la première liaison est née entre Roscoff et Plymouth, hein, ici, à cette extrémité, voilà, de l'espace Manche. Aujourd'hui, et depuis quelques mois déjà, on avait quand même une répartition assez équitable. Hein. En gros, Brittany Ferry se partage toute la Manche Ouest et le reste était partagé entre quelques compagnies, dont LD Line, la compagnie de Dreyfus. Aujourd'hui, LD Line s'est désengagée de liaison qu'elle assurait sur en Manche Centrale. Et donc, c'est Brittany Ferry qui a à nouveau pris le relais. Ils sont un peu en position de monopole aujourd'hui. Alors, il faut savoir que le trafic de ferry va être remis en cause dans peu de temps, puisqu'il y a une directive qui va être appliquée à partir de janvier 2015 qui interdit l'émission de soufre par les navires qui vont naviguer sur l'espace Manche. Et donc, cela entraîne pour les opérateurs et les compagnies de ferry la nécessité de changer leur moteur. Donc, ça a vraiment un impact économique important sur cet espace. Et ça va encore une fois bouleverser le paysage transmanche. Alors, il y a un élément dont je ne vous ai pas parlé, le tunnel sous la Manche. Alors, le tunnel sous la Manche, après de multiples atermoiements, des accidents, parfois des fermetures, hein, partielles, définitives, il a été très difficile de savoir pour nous, géographes, quel était l'impact de ce tunnel sur le paysage global du trafic maritime, parce que, en fait, il n'a jamais fonctionné à plein régime pendant de très nombreuses années. Et puis, depuis 2011, où il a été remis en service, on se rend compte que la concurrence, elle est quand même beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, alors, par exemple, pour l'année 2011, ce sont 13 millions de tonnes de fret qui ont transité par le tunnel. C'est quand même important. Sur les 333 millions qui transitent, c'est quand même un chiffre qui est non négligeable. Ça n'a pas changé fondamentalement le paysage du Transmanche, hein, l'ouverture du tunnel, mais ça a concentré en fait la concurrence au sein du détroit. Et puis ça a également développé de nouveaux marchés, des gens qui ne traversaient pas en bateau parce que c'était trop long, 6 heures de traversée, 8 heures de traversée, c'est long. Eh bien, empruntent maintenant le tunnel de façon régulière. Ça a même permis de développer du travail pendulaire entre la France et l'Angleterre, avec des Britanniques qui viennent travailler en France et des Français qui aujourd'hui vont travailler de l'autre côté de la Manche au quotidien. Donc c'est quand même une évolution, on va dire, du paysage transmanche et de l'espace Manche. Au milieu de ce trafic ferry, de ce trafic commercial, eh bien, il y a une activité qui reste, et qui est certainement l'une des plus anciennes de l'espace Manche et qu'on a un peu tendance à oublier parfois. C'est la pêche. L'espace Manche, c'est avant tout une mer et des hommes sur cette mer. Et avant tout des pêcheurs. Alors les pêcheurs, aujourd'hui, dans l'espace Manche, ben, ils sont de moins en moins nombreux. Je les ai recensés en 2011. Et j'ai compté à cette époque-là 9800 marins qui étaient embarqués en France ou en Angleterre. C'est peu, c'est très peu. 9800 marins sur 4200 navires. Alors, 4200 navires, mais des navires de taille très différente. On a évidemment de la pêche côtière, hein, c'est le marin qui va sortir à la journée, pêcher des bars, pêcher un petit peu de sol et qui va rentrer au port le soir même. Et puis, on a des marins qui partent au long cours et donc ce qu'on appelle des grosses unités de pêche qui, pour le coup, ne restent pas forcément pêchées en Manche, qui sortent de la Manche et qui vont pêcher en mer d'Écosse, en mer d'Irlande. Voire plus loin, voire en Afrique également. Et donc, évidemment, ces pêcheurs, ils sont recensés dans leur lieu de résidence, leur lieu d'immatriculation. Donc, ils sont compris dans ces 9800 marins. Mais ils ne sont pas forcément en zone de pêche quotidiennement sur l'espace Manche. Par contre, compte tenu de la concurrence et de la raréfaction de la ressource en Manche, évidemment, vous avez entendu parler de la politique des quotas, et donc les quotas qui sont imposés en Manche sur certains poissons, certaines espèces, contrairement à ce que l'on peut penser, sont parfois moins draconiens que ceux qui sont imposés en mer du Nord. De fait, on a des flottilles qui viennent de mer du Nord, et particulièrement des flottilles hollandaises, qui viennent pêcher en Manche. D'où, on va dire, quelques conflits réguliers dans la zone. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, j'ai mené une enquête sur le type d'accidents qui sont survenus en mer de Manche pendant quelques années, et l'une des causes qui apparaît comme étant la plus importante, c'est l'abordage. Alors, ça paraît surprenant l'abordage aujourd'hui. Eh bien oui, les marins s'abordent entre eux. Parce qu'il, lorsqu'il y a concurrence sur des zones de pêche, particulièrement, il faut le reconnaître, avec nos voisins des îles anglo-normandes, où c'est presque un jeu quotidien, hein, c'est un sport local, on va dire. Mais ça entraîne une certaine concurrence sur cet espace manche et évidemment des conflits potentiels et évidemment une activité supplémentaire à gérer au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on pêche dans l'espace manche? Ben, on pêche toutes sortes de poissons, hein, 28 000 tonnes pêchées en 2011 de crustacés et de poissons. En Angleterre, le principal port de pêche, c'est Plymouth. En France, c'est Boulogne. Et Boulogne-sur-Mer est le plus gros port de pêche de l'espace manche. Que pêche-t-on? Eh bien, on pêche un peu de tout, de la langoustine, de la sole, de la baudroie, des maquereaux. Mais on pêche surtout ce qui rapporte. Alors, qu'est-ce qui rapporte le plus? Eh bien, aucune surprise, la coquille. La coquille, c'est quand même ce qui rapporte le plus dans l'espace manche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, mais récemment, aux actualités, on nous annonçait que le prix de la coquille allait augmenter pour les fêtes de Noël, puisque une année sur deux, on est en sous-production, et nous sommes l'année de sous-production. Donc voilà, pour les fêtes, il va falloir faire un effort, les prix vont être en hausse. Donc voilà, c'est en fait la coquille Saint-Jacques qui est l'espèce la plus pêchée. Ensuite, ce qu'on appelle la baudroie, c'est-à-dire la sole. La lotte, pardon, ah oui. et la lotte et la sole. Voilà. Ce sont les poissons les plus pêchés et évidemment ceux qui rapportent le plus. La pression sur la ressource, donc je vous l'ai dit, s'est accentuée, d'autant qu'on a des flottilles de pêche qui viennent donc de mer du Nord et évidemment des conflits potentiels. Donc l'avenir de la pêche dans la zone a déjà été très fortement modifié, puisque vous savez que de très nombreuses flottilles ont été envoyées à la casse, hein, et qu'aujourd'hui on a de moins en moins de bateaux qui pêchent, des équipages de moins en moins importants et évidemment des quotas qui sont toujours d'actualité. Donc on a vu les ferries, les bateaux de commerce, les pêcheurs, il reste une activité fondamentale pour cet espace, la plaisance. Nous sommes en face du premier bassin de plaisance et du plus ancien bassin de plaisance au monde, le Solent. Le Solent, c'est cet espace qui va de l'île de Wight jusque de l'autre côté de la Manche, côté français, baie de Seine, mais plus particulièrement autour de l'île de Wight. C'est là qu'est née la plaisance. La plaisance, elle est née à Cowes, donc c'est un petit port de l'île de Wight. Elle est née en 1815 et puis elle s'est étendue au Havre en 1838. Cet espace manche, qui est à la fois le berceau de la plaisance, mais aussi le creuset du tourisme balnéaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, puisque les plus anciennes stations balnéaires jalonnent ce littoral, dont Brighton par exemple. Eh bien, la plaisance, c'est une activité qui est très pratiquée en période estivale principalement. Elle se développe, elle s'est démocratisée. Aujourd'hui, dans l'espace manche, on a 126 ports de plaisance qui sont recensés comme tels. Alors, j'entends port de plaisance, un vrai port de plaisance avec des pontons, une capitainerie et quelques services parfois disponibles pour les plaisanciers. Après, à tous ces ports de plaisance, il faut ajouter tous les mouillages, puisqu'on peut mouiller où l'on souhaite, entre guillemets, tous les mouillages qui se font dans les rias, les abers, les estuaires, les fonds d'estuaires. C'est le cas, par exemple, en Angleterre. Toute la rivière qui va donc de l'embouchure de Portsmouth, si vous voulez, jusqu'à Southampton, c'est une vaste marina. Elle est peuplée d'une quantité de bateaux de plaisance qui mouillent là l'hiver. Aujourd'hui, on recense dans l'espace manche, 1,3 million de bateaux qui sont immatriculés. Donc c'est énorme, 1,3 million de bateaux, évidemment des problèmes pour trouver un mouillage, des problèmes pour trouver un anneau, sachant qu'un bateau sort en moyenne une journée par an. Le rapport entre l'activité... le problème, il est là. Ce sont ce qu'on appelle les bateaux ventouses. Et justement, beaucoup de ports de plaisance sont en train d'entamer une politique pour essayer de se débarrasser de ces bateaux ventouses au profit de plaisanciers qui sont beaucoup plus réguliers sur la zone. Alors, la Manche, c'est également une zone d'où partent énormément de courses. de grandes courses au large. On en a eu des exemples il n'y a pas longtemps. Hein. Donc voilà, c'est vraiment le creuset de la plaisance. Cet espacement, vous l'avez compris, il est évidemment très dangereux. C'est un espace d'une dangerosité, je ne vais pas dire extrême, parce qu'il y a des endroits encore plus dangereux maritimement parlant, mais il n'en demeure pas moins que dans l'espace Manche, on a trois zones particulièrement dangereuses, et c'est l'une des zones qui, la première, s'est dotée d'un vrai système de surveillance. L'espace maritime, c'est un entonnoir, une mer qui est balayée par des courants très violents, particulièrement au large du Raz Blanchard. C'est un passage obligé pour tous les ports, pour tous les bateaux qui se rendent vers le Range Nord et les ports du Range Nord, donc, et la Baltique. Et donc, c'est un système, une mer qui est très surveillée. Aujourd'hui, on a de mise en place ce qu'on appelle le dispositif de séparation du trafic. C'est en fait ce sont des autoroutes qui sont dessinées fictivement. Vous les voyez apparaître en bleu ici sur la carte. Ce sont des routes que les bateaux ont obligation d'emprunter lorsqu'ils rentrent ou sortent de la Manche. Alors, créé en 1967, le premier dispositif de séparation du trafic a été mis en place dans le détroit du Pas-de-Calais pour évidemment éviter les accidents si possible. Ces routes n'apparaissent pas sur les cartes que l'on connaît habituellement, pourtant elles sont bien présentes sur les cartes marines. Et tous les bateaux qui entrent ou sortent de la Manche ont une obligation de s'identifier auprès du CROSS, c'est-à-dire les centres régionaux d'observation de sauvetage, de sécurité de sauvetage en mer. Donc il y en a trois, le CROSS Corsen, le CROSS Jobourg et le CROSS Grinet. Il y a obligation de s'identifier, de donner son immatriculation, le type de cargaison qui est transportée et la nature de cette cargaison, c'est-à-dire si elle est ou non dangereuse. Alors, pourquoi ? Eh bien parce que la mer de la Manche est une mer, vous voyez, qui est très accidentogène, puisque entre 1960 et 2009, on a enregistré 349 accidents, c'est-à-dire 7 par an en moyenne. Certains sont bénins, d'autres ont été très graves, avec des conséquences importantes pour l'environnement et les populations. Je vais vous donner un exemple qui m'a fait sourire lorsque je l'ai retrouvé. Le 7 décembre 2007, un vrai jour noir pour la Manche. Une tempête, des conditions météo désastreuses. Et au large de la pointe bretonne, au large de Douessant, en fait, on va assister à une succession d'accidents, 9 en une journée. Alors vous me direz, oui, 9 accidents, si c'est bénin, c'est pas très grave, les bateaux sont passés, ils ont été treuillés, ou bien tout s'est bien déroulé. Le problème, c'est que ces bateaux ont perdu des cargaisons. Et ce qui est le plus dangereux, finalement, dans un accident, c'est la perte de cargaison. Alors qu'est-ce que ça a donné ? Eh bien, par exemple, donc voilà, je vais vous énumérer ces pertes, vous allez voir, c'est parfois drôle. Le Honduras Star, un bateau, a perdu 9 containers de fruits et légumes. A suivi le Crocus, qui lui a perdu des camions, plusieurs, on ne sait pas combien. Le Polar Stream, 6 containers de fruits, on reste dans les fruits et légumes. Le Gibraltar Golden a perdu, lui, 2 voiliers. Le Fantôme, 187 lots de planches de bois. Le Stropus, il n'a pas eu de perte en mer, lui, mais une avarie sérieuse. Ensuite, on a eu le Normed Bremen, qui, lui, a perdu un homme à la mer, et plusieurs cylindres en inox qui faisaient plus de 10 mètres de long. Ensuite, le Mari Delmas a perdu 9 containers de cacao. Et finalement, l'Elmerald, 2 containers de bananes. Donc, que des containers. 26 containers au total. Ouais. C'est ce qui est déclaré.
Ils sont pas été perdus pour tout le monde.
Alors certains ont coulé. Certains ont coulé, d'autres sont certainement arrivés à la côte, d'autres ont rejoint cette île fantôme qui se crée donc au niveau de l'équateur, qui est en fait une île qui est constituée de déchets, de containers et de tout ce qui est rejeté à la mer, les courants entraînant en fait tous ces biens. Jeté à la mer, on est en train de voir, on assiste à la naissance d'une véritable île de déchets. Au total, 26 containers en une journée, des matériaux, des biens divers, un homme à la mer. Voilà, une journée simplement. Je peux vous raconter, et vous l'avez certainement vécu, et ça va vous rappeler des souvenirs, l'accident du Tricolore, ce bateau qui s'est couché au niveau du détroit. Il a coulé en quelques minutes, il s'est couché sur le flanc. Et le problème, c'est qu'il était vraiment dans le détroit. On ne peut pas arrêter la circulation en Manche. Un bateau s'échoue, on n'arrête pas le trafic. On a trois bateaux qui rentrent toutes les trois minutes. On ne peut pas mettre un stop et dire arrêtez tout. Un bateau ne s'arrête pas comme ça. Et puis, c'est impossible de détourner un trafic maritime de cette intensité. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, il a été heurté. C'est comme sur l'autoroute, comme sur le périphérique. L'un derrière l'autre, deux bateaux sont entrés en collision. Alors moi, je me suis dit, quand j'ai trouvé ça, c'est beaucoup de bateaux qui rentrent en collision. Et j'ai appris qu'en fait, une centaine de collisions avaient été évitées grâce au dispositif de séparation du trafic, où on a dévié les bateaux qui arrivaient par la suite. Alors, le tricolore, c'est un souvenir assez mémorable, puisque à marée basse, il affleurait. On le voyait ressortir de l'eau. Alors, à ces déversements de produits, on a également 112 déversements accidentels de produits toxiques, dont certains qui restent dans les mémoires, la Mococadis ou le Torrey Canyon, par exemple. Voilà. Donc, c'est un espace qui, aujourd'hui, est très fréquenté, avec un trafic intense et surtout avec un degré de dangerosité extrême. Et dans l'avenir, que va-t-il se passer? Ben voilà, j'ai voulu vous montrer ce bateau. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. C'est le triple E, le dernier né des chantiers Maersk. C'est un bateau qui fait 400 mètres de long, 4 terrains de foot. 14,5 mètres de tirant d'eau, ça veut dire que, vous vous rappelez, dans le détroit, on est à 30 mètres, voire moins parfois, 25 lorsqu'on a des bancs de sable, voire moins encore. Il transporte 18 000 EVP. EVP, c'est les boîtes, c'est-à-dire les containers. 18 000 EVP, c'est 18 000 camions sur la route après, lorsqu'on le décharge. C'est aussi comme ça qu'il faut le concevoir. C'est-à-dire qu'il y a la mer, mais il y a aussi les interlands, et ce qui va se passer sur les interlands. Ce type de géant des mers, ça pose problème aujourd'hui, parce que dans l'espace Manche, dans les années à venir, on n'est pas du tout sûr de pouvoir les accueillir, et d'une, et surtout, on n'est pas du tout sûr qu'ils puissent passer le détroit et rejoindre leurs ports de prédilection qui sont les ports du Range Nord. Nous, l'espace Manche, on est plutôt une zone de passage, une zone de transit. Quelques-uns s'arrêtent au Havre. Alors la carte que je vous présente ici, elle ferait plaisir à Pascal parce qu'on l'a conçue ensemble et on s'est amusé à imaginer ce que pourrait être l'espace Manche dans les années à venir. Et pour choquer un petit peu les mentalités, on a décidé de créer un port en eau profonde au milieu de la Manche. C'est le carré bleu marine que vous voyez ici. Alors ça paraît idiot ou un petit peu saugrenu comme ça. Et en fait pourquoi? Parce qu'on s'est dit, ben voilà, ces géants des mers qui vont arriver, finalement, comment vont-ils faire pour gagner le Range Nord, gagner la Baltique? Eh bien, ils vont être en fait arrêtés dans ce grand port en eau profonde. Et par la suite, ce seront des bateaux de moindre taille qui prendront le relais. Et donc, il faut développer le cabotage dans l'espace Manche. Il faut développer le cabotage et il faut développer ce type de transport. Et pourquoi pas ce type d'infrastructure? Alors, ça existe déjà en mer de Chine. Donc, ce n'est pas complètement utopiste. Mais ça existe déjà, des ports artificiels de ce type. Alors, la place Transmanche, l'espace Manche, ben voilà, il est constitué de... Donc, il a pour objectif, évidemment, un espace d'études. Nous, on travaille essentiellement là-dessus. Des enjeux, donc des questions, des problématiques qui sont plus ou moins actuelles, ça dépend. Et des problématiques au long cours. Par exemple, le transport maritime, c'est une problématique qu'on suit depuis le départ. On produit de la connaissance, on le met en ligne, c'est gratuit, c'est accessible de n'importe quel point Internet. Toutes les cartes qui sont et tous les graphiques qui sont à l'intérieur de l'Atlas sont téléchargeables gratuitement et toutes les études, vous pouvez les utiliser. Qui sont nos utilisateurs? Eh bien, essentiellement des politiques, des aménageurs, des enseignants, des chercheurs et puis des curieux, des gens qui ont envie de connaître un petit peu plus l'espace où ils vivent. Et on l'utilise au quotidien. Il y a 2500 connexions, entre 2000 et 2500 connexions par mois. Donc c'est beaucoup. On a des demandes régulières. Donc voilà, c'est à peu près le contenu de l'outil. Comment ça fonctionne? Eh bien, l'Atlas Transmanche, il est, enfin tous les atlas électroniques, mais celui-là en particulier, il est organisé de cette façon. On a un système auteur, c'est-à-dire que vous êtes auteur, par exemple, d'un article sur l'histoire. Tu as envie d'en faire profiter les lecteurs qui se connectent sur l'Atlas. Aucun souci, nous avons une rubrique histoire. Et si elle n'existe pas, on la crée. Et on peut y créer également des sous-rubriques. Tu m'écris ton papier. Je t'aide à faire des cartes s'il y a besoin. Mais pas pour tout le monde. Mais j'aide. en tant qu'auteur, vous insérez vous-même le document dans le système. Bon, je viens aider quand il y a besoin. Alors pour ça, on a une interface qui nous permet d'intégrer le texte dans le système. L'interface, c'est votre page Word. C'est exactement la même chose ou OpenOffice. C'est exactement la même chose. Ensuite, on passe dans une phase validation par l'équipe éditoriale et surtout mise en forme du document. Et là, on a une équipe de correcteurs qui viennent pour toute la mise en forme, la charte graphique, les références biblio, vous demandez de compléter, de corriger, etc. Puis, on passe dans la phase éditoriale. Là, l'équipe éditoriale relit le document, valide ou ne valide pas. Alors, ça n'est jamais arrivé qu'on ne valide pas jusqu'à maintenant. Puis, eh bien voilà, on publie. Je publie l'Atlas et dans les minutes qui suivent, votre document est en ligne. Le plus long, c'est d'écrire l'article. Après le reste, ça va très 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 vite. Voilà. Et parce que cet Atlas est bilingue, c'est une chose que je ne vous ai pas dit, mais il est bilingue, on peut faire appel à un traducteur pour traduire le texte en anglais. Alors, cet atlas-là est bilingue. J'en ai un qui est trilingue, le Caraïbe, il est français, anglais, espagnol. Donc là, pareil, un pool de traducteurs qui nous font ça gracieusement, nous exploitons les retraités, je suis navrée, mais c'est vrai. Ce sont des enseignants à la retraite. Par contre, pour la partie anglaise, eh bien, c'est Louis Chambers-Smith qui est géographe, qui lui traduit directement parce qu'on a souvent des problèmes de traduction. Donc, lui traduire, et si vous connaissez des historiens qui parlent, qui sont bilingues ou qui sont anglais, voilà, il faut leur demander la traduction. Puis, on insère l'équivalent de votre document, donc le même, exactement pareil, dans l'autre langue. Alors, dans les mois qui viennent, si vous allez sur l'Atlas, vous allez trouver des changements, parce que déjà, nous, on a trouvé que le design était un peu vieillot, donc on va tout relooker. On va également changer l'ergonomie de l'Atlas pour le rendre plus facile à manipuler. On va proposer une entrée, une navigation dans les documents. Pour le moment, c'est thématique. Vous choisissez transport, vous tapez transport dans le moteur de recherche, vous arrivez au transport. Nous, on va proposer une organisation et une lecture temporelle et spatiale par le temps, des périodes, par exemple. Et par l'espace, avec une matérialisation graphique de la recherche. Pas un moteur de recherche, je veux de telle année à telle année ou de telle période, mais on veut trouver un moyen de représenter graphiquement également cet aspect temporel. Et la même chose pour l'espace. Pour l'espace, c'est plus facile, puisqu'une carte se prête bien à ce jeu. Voilà. Donc, ça, ce sont les dernières évolutions. Et puis, tous les documents vont pouvoir être récupérés au format PDF. Voilà. Thank you.